Bonjour Lénaïque.
Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Direction Givors, près de Lyon, où de violents incidents se sont déroulés hier soir. Des groupes de jeunes très mobiles ont semé le chaos en allumant plusieurs feux et en tirant des mortiers, probablement dans le but d'attirer les forces de l'ordre et d'en découdre avec elles. Une volonté, peut-être la piste a été évoquée, de représailles après des arrestations. Écoutez la réaction du maire de Givors, Mohamed Boudjalaba.
J'ai deux voitures de police municipale qui ont été incendiées, des briques de glace sur des véhicules municipaux. D'après ce qu'on me dit, c'est des mômes, que je suis sous le choc, le fait qu'on ait ce type de comportement, mais en même temps combatif, parce que la politique que nous menons en termes de sécurité, malgré le fait que nos véhicules soient brûlés, démontre qu'on est en train d'embêter tout un écosystème. Et on va continuer dans cette voie-là, d'aller encore plus loin dans la sécurisation de nos concitoyens. Et on ne lâchera pas. Et puis j'espère que la justice pourra condamner en tout cas les fauteurs de troubles s'ils sont attrapés.
Le maire de Givors, Mohamed Boudjalaba, au micro européen de Thomas Lacroix. On en vient à notre sondage du jour. Faut-il supprimer les allocations familiales pour les parents de mineurs récidivistes? Eh bien, l'étude CSA exclusive pour Europe 1, CNews et le JDD à cette question, les Français ont répondu oui à 72%. Éric Dupond-Moretti présente lui aujourd'hui dans la presse des mesures pour mieux lutter contre les réseaux criminels de narcotrafic avec la création d'un statut de repenti pour les trafiquants prêts à donner des informations à la justice, un statut qui prévoit des peines moins lourdes et un changement d'identité lors de la réinsertion. Il dit également vouloir un nouveau parquet, le parquet national contre le crime organisé. Cette réforme doit être présentée au mois d'octobre prochain. L'idée d'une défense européenne incluant la dissuasion nucléaire continue-t-elle de faire son chemin dans la tête d'Emmanuel Macron? Dans un entretien accordé aux journaux du groupe Ebra, le président se dit prêt en tout cas à ouvrir le débat tout en précisant que si ce projet se réalise, la France garderait sa spécificité. Tu menaces, tu bloques, tu l'emportes. Voilà le tacle ce matin sur Europe 1 dans le grand rendez-vous de François-Xavier Bellamy à l'attention de Gabriel Attal. La tête de liste LR aux européennes fait référence au blocage étudiant pro-palestinien à Sciences Po. Il demande au gouvernement d'envisager un arrêt des subventions publiques à l'établissement qui a cédé face aux manifestants. Et puis, suite et fin de la 31e journée de Ligue 1 ce soir, Marseille reçoit Lens à 21h en clôture. Un peu avant, à 19h, à suivre Lyon-Monaco. Un nul ou une défaite monégasque officialiserait le sacre de champion de France du PSG. Paris qui a repoussé l'échéance après son nul 3-3. C'était hier soir contre le Havre.
Europe 1.
Et c'est Brandon Warett qui prend désormais le relais pour vous informer. D'ici là, vous retrouvez Aymeric Pourbet pour Enquête d'Esprit. Très bon après-midi, très bon dimanche à l'écoute d'Europe 1 et bonne émission Aymeric.
Merci Lénaïque pour ces infos. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 14h sur Europe 1.
13h, 14h, Enquête d'Esprit, CNews, Europe 1. Aymeric Pourbet.
Bonjour à tous et bienvenue dans Enquête d'Esprit sur Europe 1 et CNews. Enquête d'Esprit, c'est l'actualité avec un regard spirituel. Il y a un paradoxe avec le 1er mai qui sera fêté mercredi, la fête du travail, qui en France et dans beaucoup de pays dans le monde est un jour férié, donc chômé. C'est très révélateur d'une contradiction dans notre manière de considérer le travail. Dans un monde où l'argent est une valeur dominante, eh bien, il faudrait au contraire travailler moins pour être heureux. Et Dieu dans tout ça, eh bien, le travail est-il une bénédiction divine ou une malédiction due au péché originel? N'oublions pas que l'étymologie même du mot travail vient de tripalium, c'est-à-dire un instrument de torture à trois pieds. N'est-ce pas finalement donc l'éloignement de Dieu qui se traduirait par la souffrance actuelle au travail et le manque de sens? Tout cela, on en parle avec vous Véronique Jacquier, bonjour.
Bonjour Aymeric, bonjour à tous les invités. Le frère Jean-Thomas de Beauregard qui prépare un colloque sur le travail cet été à la Sainte-Baume. Joseph Touvenel, ancien vice-président de la CFTC. Et puis Amaury Leroux de Lens qui connaît bien le monde de l'entreprise.
Voilà, et tout cela, eh bien, c'est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, les infos religieuses de la semaine avec Somaya Labidi.
13h, 14h, CNews Europe 1, Enquête d'Esprit. Émeric Pourbet.
Bonjour Somaya, et on commence par parler avec vous d'une grande mobilisation autour du patrimoine religieux en France.
Bonjour Émeric, bonjour à tous. Une aide financière pour une centaine d'édifices religieux, une liste dévoilée par la Fondation du patrimoine à l'heure où le patrimoine religieux est en grave danger. C'est le cas de Jumeauville dans les Yvelines, dont l'église du 9e siècle a bien failli disparaître. Reportage sur place de Noémie Hardy, Éloi Rochebrune et Célia Gruyère.
Cette église, bâtie en l'an 800 et reconstruite en 1807 après un incendie, vient d'être rénovée. Après un an de travaux, la charpente, la voûte, les pignons ont été restaurés. Le maire de cette petite commune est particulièrement attaché à son église.
J'ai assisté à un certain nombre de cérémonies, de messes et tout. Et je me souviens aussi, étant gamin, être enfant de cœur pendant 6 ans dans cette église.
Il n'est pas le seul. Les quelques 650 habitants de Jumeauville attendent à cette rénovation.
Les habitants sont très 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 attachés à leur église. D'ailleurs, même pendant les travaux, on nous a demandé si on pouvait faire quand même des cérémonies parce que les gens souhaitaient, par exemple, avoir leurs obsèques à l'église.
Grâce aux collectivités territoriales, 1 million d'euros ont permis de rénover la charpente de l'église en préservant les bois de l'époque.
Oui, ici, par exemple, on a une pièce de bois qui est taillée à la hache, une hache qu'on appelle une doloire. C'est le même outil qui a été utilisé à Notre-Dame pour restaurer les bois de charpente.
On a eu la chance de retrouver tous ces bois de la période gothique qui étaient encore en place, qui n'avaient pas brûlé pendant les attaques où les protestants ont mis le feu à l'église. Mais bon, ça, évidemment, a pu se faire avec la Fondation du patrimoine qui a pu aider la commune dans toutes ces démarches.
La Fondation du patrimoine est intervenue sur 8000 édifices religieux depuis 25 ans. Une mission indispensable.
Tout individu et toute société a besoin d'une mémoire. Et cette mémoire, elle est portée par les pierres, elle est portée par l'histoire, elle est portée par les textes, par la littérature. C'est ça qui nourrit l'individu, qui construit la société.
Cette année, l'église a été sélectionnée pour la collecte de dons de la Fondation. L'objectif, finir le reste des travaux pour rouvrir au public et au culte le plus rapidement possible.
Dans le reste de l'actualité, les religieux font front commun contre le projet de loi sur l'euthanasie. Interrogé en commission cette semaine à l'Assemblée nationale, des représentants chrétiens, musulmans et bouddhistes ont exprimé leurs inquiétudes.
Décider de faire mourir une personne, même exceptionnellement pour quelques-uns, réaliserait un risque de réelle profanation de l'acte de soin au sein de la société.
Mais ce Rubicon, on est en train de le franchir aujourd'hui. Et c'est quoi ce Rubicon ? Le Rubicon, c'est justement, on passe d'un dispositif qui a pour effet la mort, pas de donner la mort, qui a pour effet la mort, qui est la sédation profonde, à un dispositif qui organise, d'une manière active ou pas, des actes pour donner la mort.
Comment éviter la banalisation et surtout une pression sociale qui pourrait pousser les personnes fragiles et précaires à penser qu'elles sont de trop et à envisager l'aide active à mourir? Comment enfin éviter une dérive économique libérale où la fin de vie devienne variable d'ajustement des comptes?
Une première depuis 10 ans, le patriarche de Constantinople, Bartholomée Ier, était en visite officielle cette semaine à Paris. L'un des plus importants représentants de l'orthodoxie mondiale a donc rencontré le président Emmanuel Macron et une délégation d'évêques français. Des rencontres aux enjeux spirituels mais aussi politiques. Éloi Rochebrune.
C'est le personnage le plus influent de l'orthodoxie. À Paris, Bartholomée Ier vient à la rencontre de ses fidèles français. Le clergé et les laïcs ont pu le saluer. Une rencontre spirituelle à l'approche de la Pâque orthodoxe. Le père Sologoud attendait son message.
C'est toujours un moment important, quoi. C'est le père spirituel des orthodoxes et en particulier de notre métropole. Et donc c'est toujours très, très agréable de le recevoir, toujours un moment important et émouvant. Et puis surtout des paroles d'encouragement qu'il nous a données.
Le patriarche de Constantinople a aussi un rôle politique. À l'heure de la guerre aux portes de l'Europe, il a rencontré Emmanuel Macron à l'Élysée. Catholiques, protestants et orthodoxes étaient réunis dans la cathédrale Saint-Stéphane pour prier et louer. Un moment d'unité remarqué par Mgr Andrea Francia, diplomate du Saint-Siège.
Le patriarche a vraiment lancé tout son engagement pour créer des liens, pour apaiser aussi au niveau ecclésial et aussi politique, je pense, des tensions qui sont très fortes. Et donc la présence de l'Église dans des pays de l'Est est importante pour être un pont de dialogue.
Bartholomée Ier a aussi rencontré plusieurs évêques de France. Conclusion d'un bref séjour aux enjeux spirituels, mais aussi politiques.
À la une de l'actualité internationale, l'appel solennel des Nations Unies en début de semaine à garantir la justice au Sri Lanka, date à laquelle le pays commémore le 5e anniversaire du massacre de 279 personnes lors d'une attaque terroriste contre des chrétiens qui aujourd'hui réclament justice. Éloi Rochebrune.
Sur ces photos, les visages des victimes massacrées lors des attaques du dimanche de Pâques 2019, un groupe djihadiste local affilié à l'État islamique avait ciblé 3 églises et 3 hôtels. Aujourd'hui, des milliers de catholiques sri-lankais commémorent un douloureux anniversaire et prient pour les victimes. 5 ans après, tous réclament une enquête approfondie.
Il y a des enfants qui ont perdu leur mère, qui se sont retrouvés sans ressources et qui ont eu leur famille brisée à cause de l'attaque de Pâques. Nous demandons que ces victimes soient prises en compte.
Une première procédure a montré que les services de sécurité du Sri Lanka avaient été prévenus du danger, mais n'avaient pas réagi. Le cardinal Malcolm Rangis accuse aujourd'hui le gouvernement sri-lankais de supprimer des preuves.
Ceux qui ont gouverné le pays au cours des 4 ou 5 dernières années ont tenté d'étouffer l'attentat de Pâques.
Une récente enquête d'un média britannique accuse même l'actuel chef des services du renseignement du pays de complicité dans les attaques. Elles avaient fait 279 morts et 500 blessés.
Puis on termine ce journal avec le capitaine de l'équipe de volley de Saint-Nazaire qui va entrer dans les ordres. À 32 ans, Ludovic Duet a décidé de mettre un terme à sa carrière après avoir joué la finale du championnat de France aujourd'hui. Il entrera chez les chanoines de la Grâce, chez qui il a redécouvert sa foi au moment de la crise Covid. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité de la semaine, Aymeric.
Merci Somaya Labidi pour ces infos. Aujourd'hui dans Enquête d'Esprit, nous parlons du travail, du sens du travail et de Dieu dans tout ça avec le frère Jean-Thomas de Borgard. Bonjour mon père.
Bonjour.
Vous êtes dominicain et organisateur d'une université d'été à la Sainte-Baume, c'est en Provence, sur le thème du travail justement. Vous nous en parlerez. Avec nous également Joseph Touvenel. Bonjour.
Bonjour Aymeric.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président du Centre européen des travailleurs, c'est-à-dire 70 organisations sociales chrétienne dans 30 pays d'Europe, directeur de la revue Capital Social et ancien vice-président de la CFTC. Et puis Amaury Leroux de Lens, bonjour, est avec nous également. Merci d'être avec nous. Vous travaillez dans le monde informatique et des start-up. Vous êtes vice-président de l'ingénierie, comme on dit, dans une entreprise qui fabrique des bornes de recharge électrique. Et vous faites aussi partie de l'Opus Dei, qui a beaucoup approfondi la spiritualité jusque dans la vie ordinaire et notamment, bien sûr, au travail. Vous nous en parlerez. Et puis Véronique Jacquier, vous nous direz comment aussi l'Église a réagi au XXe siècle face à la vision marxiste du travail. Alors, justement, c'est un des paradoxes de notre modernité, on va dire, c'est que le 1er mai, eh bien, est la fête du travail, mais c'est une fête du travail chômée. Joseph Touvenel, c'est un peu curieux, non ?
C'est pas du tout curieux. Quand on regarde, par exemple, si on a la curiosité d'ouvrir le compendium de la doctrine sociale de l'Église, il y a toute une réflexion sur le travail. Et on nous dit que le sommet du travail, c'est le jour du sabbat. C'est-à-dire que le sommet de la valeur travail, c'est le jour où, justement, on ne travaille pas au sens matérialiste du terme. Le travail, c'est quoi ? C'est participer au bien commun. Par mon travail, je me réalise. Pour un chrétien, je suis co-créateur, donc je suis quasiment à l'égal de Dieu. C'est quelque chose de très, très important. J'ai une autonomie financière dans le monde du travail rémunéré. Mais il ne faut pas que je me laisse emporter par ce matérialisme. Et il faut que j'ai la capacité d'avoir quelques jours, le dimanche, les jours de fête, pour le consacrer à la vie familiale, à la vie personnelle, à la vie associative, à la vie spirituelle et à une autre forme du travail. C'est par exemple le temps du travail des bénévoles, ceux qui encadrent des mouvements scouts. Puis il y a un travail qu'on oublie souvent et qui est 7 jours sur 7. C'est par exemple le travail des mères de famille qui élèvent leurs enfants. C'est pour ça qu'il faut revenir au vrai sens du travail, la participation à une œuvre en étant co-créateur.
C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui dans Enquête d'Esprit. Père de Borgard, les origines même de cette fête du travail, est-ce qu'on peut les relier justement à un idéal révolutionnaire de lutte des classes notamment ?
Alors ce qui est certain, c'est que, je crois que Véronique Jacquier nous en parlera tout à l'heure, mais au départ c'est plutôt quelque chose qui a trait aux luttes de classes, aux luttes révolutionnaires. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont l'Église, comme souvent, à essayer de, non pas d'annexer quelque chose qui lui était au départ étranger, mais de se saisir d'un mouvement émergent pour le christianiser, tant il est vrai que tout ce qui est vrai est catholique, de droit, et que donc, s'il y a quelque chose de vrai dans la fête du travail et d'une manière générale dans les revendications des travailleurs, ou en tout cas dans la dignité du travail, alors on doit pouvoir lui donner un sens chrétien et on doit pouvoir même, d'une certaine manière, faire émerger aux yeux même de ceux qui ne le savaient pas, le fait que c'est déjà de droit chrétien. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie parfois. On a tendance à opposer l'Église et le monde, et notamment, mettons, le monde du travail. En réalité, si c'est vrai, c'est de droit catholique et on peut le christianiser, on doit le christianiser.
Alors, qu'y a-t-il de vrai dans le travail, dans la notion même de travail, justement? Véronique, comment l'Église a-t-elle réagi, justement, sur ses origines, donc un peu révolutionnaires, ou même un peu pas du tout, enfin complètement révolutionnaires, on va dire? Et c'est notamment le pape Pie XII qui, face à cette récupération du souci des travailleurs, a instauré la fête de Saint-Joseph, artisan, le 1er mai.
Oui, tout à fait. C'était une contre-attaque sur laquelle je vais revenir, mais tout d'abord, je voudrais compléter ce que vient de dire le frère Thomas, à savoir que l'Église, dès les premiers siècles du christianisme, de toute façon, a eu une préoccupation pour la valeur travail. Maintenant, on parle de valeur travail, ne serait-ce que parce qu'elle s'est opposée à l'esclavage pour défendre la dignité du travailleur. Donc ça, c'est dans les premiers siècles du christianisme. Et les pères de l'Église avaient, ne pensaient pas qu'à la théologie, mais étaient férus aussi des questions économiques, ne serait-ce que pour que ce qui était un labeur contienne une notion de dignité. Bon, ça paraissait logique. Donc ça, tout ça ne date pas d'aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la date du 1er mai pour fêter le travail a été choisi pour une raison bien précise, pour célébrer le combat des syndicalistes américains qui avaient obtenu la journée de travail de 8 heures, vous imaginez, en 1886, après une grève qui s'était terminée dans le sang. Donc ça, 1er mai 1886, c'est un totem pour défendre la classe ouvrière de par le monde, et c'était évidemment une date dont s'étaient emparés les socialistes et les communistes. Alors l'Église se dit, on ne peut pas leur laisser le champ libre, ce n'est pas possible, le pape Pie XII contre-attaque. Comme par hasard, un 1er mai, le 1er mai 1955, il le fait exprès, puisqu'il emploie ces paroles. « Nous avons le plaisir de vous annoncer notre détermination d'instituer la fête liturgique de Saint-Joseph artisan en la fixant précisément le 1er mai. » Le pape choisit donc volontairement cette date pour affirmer, dit-il, l'amour de l'Église pour les ouvriers et pour dénoncer, je cite, « l'atroce calomnie que l'Église est alliée au capitalisme contre les travailleurs ». Donc il fallait vraiment qu'il réaffirme la position de l'Église par rapport au monde du travail et des ouvriers. Et le Saint-Père, évidemment, vise explicitement, là encore, le communisme et le socialisme. Alors, quel message fait-il porter à Saint-Joseph artisan en ce 1er mai? Eh bien, pour Pie XII, et comme pour tous les papes d'ailleurs, Saint-Joseph artisan incarne la dignité du travail manuel et il est le gardien de la famille. Et vous l'avez dit, Joseph Touvenel, il y a évidemment un impact entre la vie du travail et la vie familiale. Et le pape Pie XII veut que ce 1er mai chrétien soit accueilli par les travailleurs chrétiens. Non, dit-il, pour réveiller la discorde, c'est-à-dire il n'est pas question de faire la guerre aux communistes et aux socialistes, mais, dit-il, pour que ce soit au contraire pour tous, pour toute la société moderne, une invitation récurrente à faire progresser les idéaux chrétiens, et puis pour que la dignité du travail, donc on en est toujours à cette notion de dignité, soit reconnue par tous et que cela inspire des lois fondées sur la répartition équitable des droits et des devoirs. On a un petit peu oublié aussi cette dimension des droits et des devoirs à travers la notion de travail.
Merci beaucoup Véronique pour ces explications. On va demander à nos invités bien sûr de réagir. Amaury Leroux de Lens, je rappelle que vous travaillez donc dans le monde de l'informatique. Est-ce que d'après ce que vous pouvez constater avec votre regard donc d'actif, la parole de Pie XII a été efficace sur le monde du travail d'aujourd'hui?
C'est difficile de répondre ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le travail, on en parle beaucoup dans un contexte professionnel. Moi personnellement, et comme vous l'avez dit, c'est dans la continuité de l'esprit de l'Opus Dei. Le travail, c'est pas que dans l'entreprise, c'est aussi à la maison, c'est aussi avec les amis. À titre personnel, je fais de la moto. Quand je vais faire de la moto, ce qui peut paraître surprenant avec des amis, c'est pas un travail, mais c'est aussi une activité dans le sens où on n'est pas oisif. Et je pense que c'est ça qui est plus important. Quand on parle du 1er mai, le but d'un jour férié ou de fêter le travail, c'est pas d'être oisif un jour, c'est de changer d'activité et c'est de vivre pleinement ce qui nous est offert, qu'on soit au travail, à la maison, avec des amis, en train de tondre la pelouse ou faire autre chose, ou faire les courses. Et voilà. Et donc, je sais pas si Pie XII essaie de nous emmener jusque là, mais aujourd'hui, je trouve que c'est comme ça qu'on arrive vraiment à vivre enfant de Dieu, réaliser la volonté de Dieu dans toutes nos activités.
Père de Bourgard, je reviens à ce que disait Pie XII, parce que choisir le mot artisan pour qualifier donc la figure de Saint-Joseph, maintenant on dit plutôt travailleur, mais enfin bon, en tout cas, le sens est le même, c'est que on est plutôt dans un travail manuel. Oui. Aujourd'hui, l'économie, c'est pas, il y a rien de nouveau là-dedans, mais elle est quand même dominée par le monde du tertiaire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une certaine déconnexion du réel par rapport justement au détriment de ces métiers manuels? Et je reviens aussi à une phrase de l'Évangile, où dans l'Évangile de Saint-Marc, en parlant de Jésus, on dit n'était-il pas le fils du charpentier, d'une manière un peu méprisante, condescendante en tout cas. Ouais. Est-ce que finalement, là, on a aussi perdu le sens du travail à travers cette dévalorisation du travail manuel?
Alors, ce qui est vrai, c'est que historiquement, le christianisme a justement revalorisé le travail manuel, puisque dans la pensée grecque et romaine, c'était extrêmement dégradant que de travailler manuellement. Ce qui était le but de toute âme bien née, c'était la vie contemplative, la vie théorétique, et le travail manuel, c'était dégradant. Donc, il y a une forte valorisation du travail manuel dans la pensée chrétienne, qui d'ailleurs a peut-être un peu peiné dans un premier temps à adapter son discours à de nouvelles formes de travail. Et de fait, je ne suis pas dans une, je pense pas qu'il faille se réfugier dans une vision romantique du travail artisanal qui produit quelque chose avec une sorte de symbiose entre l'artisan et son œuvre, etc. D'abord parce que peut-être que ça se passait pas exactement comme ça dans la plupart des cas. Mais ce qui est vrai quand même, c'est que d'abord dans le travail à l'usine, puis maintenant dans le travail un peu virtualisé, il y a une déconnexion entre l'œuvre et celui qui l'a produit, qui fait que c'est plus difficile d'envisager la manière dont, en travaillant, je m'humanise. Vous savez, le pape Jean-Paul II, dans l'encyclique Laborem Exercens, en 1981, insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que le travail est une condition d'humanisation de la personne. C'est ce qui fait qu'il devient personne réellement, et non pas d'abord l'œuvre, la chose produite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les conditions actuelles du travail, on a plus de mal à voir. Ça se fait quand même, probablement dans un certain nombre de cas, mais c'est moins tangible la manière dont l'homme s'humanise par son travail.
Pardonnez-moi, mais vous travaillez dans l'informatique. Est-ce que justement, ce n'est pas le secteur un peu archétypique de cette déconnexion un peu du réel?
Alors, je dirais que non.
Même si ça rend des services, bien sûr.
Tout à fait. Vous parlez beaucoup de secteur tertiaire, donc je pense qu'il y a tout un panel de rôles dans le tertiaire, mais dans l'informatique et dans le monde des startups, on arrive à développer une proximité, ou en tout cas une boucle très courte de retour entre ce qu'on fait et comment c'est utilisé. Ça aide beaucoup. Là où je vous rejoins beaucoup, c'est que ça nous déshumanise si on fait notre travail que pour ça, que pour ce qu'on produit. Et je pense que c'est ce qui nous humanise beaucoup plus dans le tertiaire, c'est la relation qu'on va avoir avec les autres, avec la personne avec qui je travaille, soit mon collègue, soit mon boss, soit les utilisateurs du produit ou du service que je développe, si je suis dans le tertiaire, et le faire avant tout pour eux, c'est-à-dire se mettre avant tout au service d'eux et non pas pour la performance ou la perfection de ce que je produis, qui est un petit peu la vision romantique, je pense, de l'artisan qui produit une œuvre d'art. Je pense que beaucoup de gens ne produisent pas d'œuvre d'art. Et voilà, et donc je pense que c'est vraiment dans le tertiaire aussi, c'est comment on le fait, avec qui on le fait et comment on traite ces personnes.
Dans quel esprit?
Ouais, exactement.
Véronique Jacquet, puis Joseph Tounel.
Oui, j'ai deux questions. La première, comment considérer le télétravail? De fait, quelle humanisation, parce qu'on a l'impression justement que comme on s'exclut d'une cellule du monde de l'entreprise, on n'est pas acteur ou co-créateur de sa propre humanisation, donc il y a quand même une question là-dessus, presque philosophique et théologique. Voilà, première réponse peut-être, frère Thomas.
Alors, le télétravail, ça pose beaucoup de questions parce que d'un certain point de vue, ça a un énorme avantage, c'est que ça rapproche le travailleur de sa famille, puisqu'il peut travailler depuis chez lui et avoir un contact plus régulier avec ses enfants. En même temps, d'une certaine manière, celui qui est en télétravail, il est ni vraiment avec les personnes avec qui il travaille, ni vraiment avec ses enfants. Donc il y a quelque chose d'un peu pervers aussi, où on n'est pas présent à ce qu'on fait, puisqu'on est à moitié dans l'un, à moitié dans l'autre. C'est le syndrome des plusieurs fenêtres ouvertes sur l'ordinateur, mais ça vaut pour ça. Et par ailleurs, on y perd la dimension sociale du travail avec des personnes, ce qui fait que je pense qu'on va aller, et c'est ce vers quoi on se dirige, vers un équilibre où il y a peut-être quelques jours dans la semaine en télétravail, mais au minimum la moitié sur place pour voir les gens, en fait.
Joseph Touvenel, une dernière réflexion avant la pub. une question peut-être pour amorcer. Qu'est-ce qui distingue Saint-Joseph, j'y reviens, du mineur de Germinal ou de Stakhanov, hein, ce mineur là aussi, dont la capacité de travail phénoménale
d'abord,
a été...
Saint-Joseph, c'était pas un menteur. Stakhanov, c'était un menteur, puisqu'il a jamais produit ce qui a été produit. C'était une manipulation communiste. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est sur le sens du travail. Saint-Joseph, artisan, c'est un travail parce que ça a du sens. Quand ils réalisent quelque chose. Et d'ailleurs, vous pouvez prendre deux entreprises qui font la même chose ou deux personnes qui font la même chose. C'est pas du tout le même résultat si j'ai le sens. J'ai travaillé très jeune, notamment j'ai été pendant 2 ans homme de ménage. Donc je venais tôt le matin, tard le soir, vider les poubelles, nettoyer les toilettes. Mon travail avait du sens. Je savais que si je le faisais bien, les gens qui viendraient derrière, c'était un lieu propre, agréable. Mon travail a du sens. On peut faire exactement la même chose en étant totalement exploité, en étant méprisé. Et là, le travail n'a plus le même sens. C'est vraiment le sens, mais celle qui le dit le mieux, peut-être, c'est Simone Veil, qui parlait de la finalité du travail. Travailler en connaissant la finalité. Pourquoi je travaille ? Travailler, vous l'avez dit, c'est un lien social. Je travaille avec d'autres et pour les autres, et non pas juste gouverné par la nécessité. C'est vraiment la différence. Un point qu'on n'a pas soulevé, quand on parle de travailleur, un travailleur, c'est un employé, c'est un ouvrier, c'est un chef d'entreprise, c'est un indépendant. Tous ces gens sont des travailleurs, on a tendance à l'oublier.
On n'est pas dans la lutte des classes.
Non, c'est justement le contraire de la lutte des classes.
Le travail dans la Bible est-il une bénédiction ou une malédiction ? On en parle tout de suite après la pub avec nos invités, donc vous restez avec nous bien sûr.
Bonjour, c'est Pascal Pro sur Europe 1.
Oui, bonjour Pascal.
Ce qui compte, c'est vous.
Je pense que vous êtes la voix de personnes qui n'osent rien dire et qui sont majoritaires quand même dans ce pays.
Il faut se réveiller un petit peu à un moment donné.
Je sors pas le soir non accompagné.
Est-ce que c'est normal ?
Pascal Pro et vous.
Merci d'être comme vous êtes tous, au cœur des choses.
Alors je vous attends de 9h à 9h30 et de 11h à 13h. À demain sur Europe 1.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ? Non ? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. Enfin, au livre de poche, le thriller ésotérique du duo star Giacometti et Raven. Le Graal du Diable. 1944, des partisans anti-nazis terrorisent la région des Balkans. Tristan Marcas plonge de nouveau dans les coulisses occultes de la Seconde Guerre mondiale, en quête du Graal. Le Graal du Diable, de Giacometti et Raven, au livre de poche.
Chaque printemps, nous, producteurs de la coopérative des Noirmoutiers, récoltons la pomme de terre primeur de l'île. La Noirmoutier, c'est un an de passion et de travail pour une saison qui ne dure que 3 mois. Cette année, plus que jamais, nous avons à cœur de vous régaler chez vous. Profitez-en maintenant. La Noirmoutier, unique, comme son nom l'indique.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
13h-14h, CNews, Europe 1, Enquête d'esprit. Émeric Pourbet.
On est ensemble dans Enquête d'esprit jusqu'à 14h. Vous ne bougez pas sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve dans un instant, juste après la pause.
En 2024, les enjeux pour l'économie du sport en France sont nombreux. Comment cette année sportive servira-t-elle de vitrine aux entreprises tricolores ? Réponse ce mardi dès 21h sur Europe 1 dans La France bouge, présentée par Elisabeth Assayag, avec Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, en partenariat avec la CCI Bayonne Pays Basque.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-er réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps, à découvrir dès maintenant au Musée Guimet,
avec Europe 1.
Aujourd'hui, 3 millions de Français se privent de produits d'hygiène essentiels, faute de moyens. Pourtant, se sentir propre, c'est aussi vital que de se nourrir. Depuis 20 ans, l'association Don Solidaire rend possible la distribution des produits d'hygiène auprès des personnes en situation de précarité. Grâce à Don Solidaire, Alia n'a plus à choisir entre manger ou acheter des couches pour sa fille. Chloé peut aller en cours sans crainte, même si elle a ses règles. Lucas, fraîchement préparé, va confiant à son entretien d'embauche. Rejoignez notre chaîne de solidarité sur donsolidaire.fr.
CNews Europe 1, en quête d'esprit. Émeric Pourbet.
De retour dans Enquête d'esprit, nous parlons du travail à l'occasion de la fête du 1er mai ce mercredi avec le frère Jean-Thomas de Borgard. Il est dominicain et organise une université d'été sur le thème du travail justement. Il nous en parlera avec également Joseph Touvenel. Il est vice-président du Centre européen des travailleurs qui regroupe des organisations sociales chrétiennes en Europe. Et puis Amaury Leroux de Lens qui travaille dans le monde informatique et qui a aussi une vision de la spiritualité du travail. Il nous en parlera. Et puis bien sûr Véronique Jacquier est avec nous dans cette émission en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors justement, que dit l'Église, la Bible sur le travail ? Est-il une bénédiction ou une malédiction ? C'est vrai, Joseph Touvenel, que si on lit le premier chapitre de la Bible qui s'appelle la Genèse, il y a cette phrase que tout le monde, en tout cas que beaucoup de gens ont en tête, tu travailleras la sueur de ton front. Ça veut dire que le travail serait plutôt du côté de la malédiction.
Non, parce que le travail appartient à la condition originelle de l'homme. Et là, ce dont vous me parlez, c'est après la chute, après le péché originel. Mais avant, le travail, c'est permettre à l'être humain d'être co-créateur, c'est-à-dire quasiment à l'égal de lieu, participer à la création. Parce que vous voyez l'importance de la valeur travail pour un chrétien, je participe à la création. Et c'est après, c'est la chute. Et ensuite, il y a le rôle du matérialisme. Et quand on revient à une époque plus récente, le 19e siècle, c'était avec Karl Marx, l'exploitation des travailleurs. Et Karl Marx parlait même de l'ouvrier, cet animal travailleur, ce qui est quand même assez respectueux pour les ouvriers. C'est toute la différence entre la notion matérialiste du travail. Le travail devient une marchandise. Le travail devient quelque chose qui est uniquement un outil commercial et financier. Alors que pour le chrétien, le travail a une valeur d'élévation de l'homme. Par mon travail, je me réalise. Par mon travail, je peux avoir une autonomie. D'ailleurs, c'est une excellente façon de lutter contre la pauvreté, le travail, si je permets aux gens de travailler en étant justement rémunérés. Et c'est pas nouveau. 13e siècle, saint Thomas d'Aquin, le juste salaire. Chacun, de par son labeur, doit pouvoir vivre dignement, lui, sa famille, et épargner. J'aimerais bien qu'au 21e siècle, chacun puisse travailler et vivre dignement avec sa famille et épargner.
Véronique Jacquier.
Le revenu universel, c'est un fantasme alors ?
Non, c'est une faute. C'est-à-dire que le revenu universel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à tout le monde, on va attribuer un revenu. Alors je ne sais pas quel montant, c'est parfaitement injuste. Alors saint Paul, qui était très, très ferme, disait que celui qui ne travaillait pas, il n'y avait pas de raison qu'il mange. C'est une logique. Travailler, c'est participer au bien commun. Alors évidemment, il y a, j'oublie les cas de personnes qui ne peuvent pas travailler pour des raisons médicales, etc. Donc il est normal que la société leur vienne en aide. Mais enfin, celui ou celle qui ne veut pas travailler par fainéantise, il n'y a aucune raison pour qu'on lui donne un revenu. C'est d'autant plus injuste, pardon, qu'on nous dit « oui, mais ça va simplifier les choses et il ne va plus y avoir toutes les aides sociales différentes ». La question qu'on peut se poser, quand on fait une aide particulière pour des travailleurs handicapés, ça me paraît logique, ça me paraît tout à fait illogique de donner exactement la même chose à celui qui se refuse à travailler. Et puis ne pas travailler, c'est une très grande souffrance. C'est être mis en marge de la société, c'est de se dire... Enfin, des chômeurs, j'en vois quasiment tous les jours, ça fait partie de ma mission de les voir, les accompagner. Mais c'est une très très grande souffrance en disant « mais je ne sers à rien dans cette société ». Et au contraire, on doit montrer à chacun qu'il est capable de faire quelque chose. C'est d'ailleurs le merveilleux message qui est fait par ceux qui se spécialisent pour offrir la possibilité à des handicapés de travailler. Je pense par exemple à ceux qui peuvent nous accueillir dans un hôtel, dans un restaurant, parce que c'est leur montrer qu'ils ont aussi la capacité de participer au bien commun et à la vie de la société.
Père de Borgard, si le travail est donc une bénédiction dans la vision chrétienne, aujourd'hui on constate quand même que cette valeur a tendance, à, en tout cas le temps de travail a tendance à diminuer. Hein. On a environ en moyenne 1500 heures de travail par an pour les salariés en France et ça a tendance à baisser. Est-ce que justement cette civilisation des loisirs, comme on l'appelle, finalement rend les gens plus heureux ?
J'ai pas l'impression que ça les rende beaucoup plus heureux, précisément peut-être parce qu'on confond, c'est ce que disait Amaury tout à l'heure, l'oisiveté et le travail de loisir, si je puis dire, ou en tout cas l'activité, et c'est ce qui rend probablement les personnes malheureuses. Peut-être que quelque chose qui est symptomatique aussi, je ne sais pas s'il faut le déplorer, mais c'est qu'on s'identifie de moins en moins à son travail. Et d'ailleurs, en règle générale, au cours d'une vie professionnelle, on peut avoir fait des tas de choses extrêmement différentes, sans rapport les unes avec les autres, de telle sorte que c'est plus difficile, parce qu'on ne s'y identifie plus, c'est aussi plus difficile d'y trouver une sorte d'accomplissement. Je suis frappé de voir, moi, les gens qui sont de ma génération, donc entre 30 et 40 ans, le travail est un pur moyen, pour beaucoup d'entre eux, pour le reste. Et il y a quelque chose d'assez juste qui est de dire il n'y a plus cette idolâtrie du travail dans lequel on devrait trouver tout son épanouissement, et en même temps, quelque chose d'un peu étonnant où soit ça devient un pur moyen, soit au contraire, je veux absolument m'épanouir complètement dans mon travail et donc j'en change tous les 6 mois parce que je n'y retrouve évidemment pas mon compte. On vise à la fois trop haut et trop bas en termes de travail, j'ai l'impression, aujourd'hui.
Alors, on va écouter Éric de Rigmatten, qui est journaliste éco de CNews, sur cette actualité concernant l'entreprise Michelin, fabricant français de pneumatiques, et qui vient d'annoncer que le SMIC ne suffisait pas à faire vivre une famille, et donc l'entreprise va mettre en place ce qu'elle appelle le salaire décent, qui permet de subvenir aux besoins fondamentaux d'une famille de 4 personnes. Écoutez les explications, Éric de Rigmatten.
Oui, Aymeric, c'est un projet très généreux, très social, mais qui se fera en échange de sacrifices. Parce qu'il y aura des suppressions de postes, il faut s'y attendre. Parce que chez Michelin, il y a 132 000 salariés. Il y a 131 usines qui sont sous-utilisées. Alors Michelin veut préparer les esprits au changement. Et pour motiver ceux qui restent, eh bien le salaire décent va être déployé partout dans le monde. Alors un salaire décent, c'est quoi, vous allez me demander? Eh bien selon Michelin, c'est un salaire qui doit permettre de couvrir 5 dépenses majeures dans un foyer de 4 personnes, disons. L'eau, l'alimentaire, l'habillement, le logement et l'école, avec en plus des avantages sociaux comme les congés parentaux qui n'existent pas en dehors de la France, qui, rappelons-le, est très généreuse. Michelin est vraiment précurseur dans ce domaine. D'ailleurs, son président annonce aussi qu'il va réguler, qu'il va plafonner son propre salaire chez Michelin. Il veut donner l'exemple. Il veut aussi que les salariés ne quittent plus le navire. Parce que depuis l'épisode Covid, on s'aperçoit qu'il y a une vague de démissions et la pénurie de main-d'œuvre est devenue un vrai problème, au point que Michelin va accélérer la mise en place de robots qui, eux, ne seront pas payés.
Amaury Le Roux de Lens, ça vous semble une bonne idée, ce salaire décent qui inclut justement les besoins de la famille? Donc finalement, on est dans une vision plus globale du travail.
Alors déjà, selon où on habite, ça ne m'étonne pas d'entendre qu'avec un SMIC ou 2 SMIC, selon un petit peu sa situation familiale, on a du mal à vivre. Donc je pense que c'est probablement une bonne idée. Par contre, ça doit représenter la valeur du travail apporté. C'est-à-dire qu'un petit peu comme on parlait du revenu universel, si on donne la récompense sans exiger que le cadre soit vécu, ça devient incohérent. Et donc pourquoi pas, très bien. Je trouve ça très bizarre dans ce qui est expliqué, qu'il corrèle ça avec la sous-utilisation de certains employés et du coup un remaniement des effectifs. Moi, je décorrélerai les deux. Donc oui, ça me semble une bonne idée. Après, il faut pas que ça devienne, comme je disais, une récompense pour tout le monde automatique. Il faut que ça s'inscrive dans une vraie démarche de contribution et de service.
Le salaire n'est pas une récompense. Le salaire, c'est juste quelque chose de juste qui permet de vivre et non pas de survivre. Ce que fait Michelin, c'est exactement ce que prône Saint-Thomas d'Aquin. C'est pas que pour la France, hein, c'est pour le monde entier. Et ça, c'est très très intéressant d'amener cette idée et de le réaliser. Chacun, par son travail, doit pouvoir vivre dignement avec les siens. C'est une révolution, c'est la révolution chrétienne dans le monde économique et social. Michelin sait parfaitement ce qu'il fait. Et en plus, derrière, c'est la fidélisation des salariés. Mais ça a été fait au 19e siècle. Je pense à Léon Harmel, par exemple.
On va en parler justement dans un instant.
Léon Harmel était très social. Et en étant très social, il a eu des salariés qui ont mieux travaillé que ceux des usines à côté qui faisaient la même chose. Parce qu'ils se sentaient partie prenante et ils se sentaient respectés dans leur dignité. Eh bien, le salaire décent, c'est ça. Dans décent, il y a dignité. Et c'est ça qu'il faut amener, alors progressivement. Ensuite, il peut y avoir des différences de salaire, c'est tout à fait légitime, mais que chacun, de par son labeur, puisse travailler et vivre dignement.
Alors justement, Léon Harmel, vous en parlez, eh bien, c'est une tradition qui remonte effectivement à la deuxième moitié du 19e siècle, ce qu'on a appelé le christianisme social, dans le nord et l'est de la France notamment, avec cette figure emblématique de Léon Harmel que nous décrypte Éloi Rochebrune.
Dans sa maison familiale de Senlis, en Picardie, Aymeric Saucourt-Harmel conserve des archives familiales très précieuses à ses yeux. des objets relatifs à l'œuvre de l'un de ses aïeux, Léon Armel, un patron chrétien du 19e siècle. Entrepreneur en filature, il a expérimenté la doctrine sociale de l'Église dans son entreprise. Sur ce document, Léon Armel a dessiné ce qu'il appelle sa corporation chrétienne idéale.
Ces documents étaient au fond d'une bibliothèque chez mes grands-parents. Et ils étaient là depuis en fait la fin de la Première Guerre mondiale.
Parmi les archives, des livres écrits de sa main, il milite en accord avec le pape Léon XIII pour une plus grande justice sociale. Il développe ainsi une nouvelle manière de diriger qu'il consigne dans un ouvrage.
Sorti en 1889, Léon Armel a publié un catéchisme du patron sous la forme traditionnelle d'un catéchisme. C'est-à-dire que c'est la forme de questions et de réponses.
Peut-on devenir actionnaire d'une entreprise condamnée par les lois de Dieu et de l'Église ? On se rendrait coupable en devenant ou en restant actionnaire d'une maison de jeu, d'un cercle notoirement mauvais et d'une société au service des ennemis de l'Église.
Des valeurs chrétiennes qu'il veut aussi transmettre à ses salariés, il fait ériger une chapelle dans son complexe industriel à une vingtaine de kilomètres de Reims, qu'il consacre à la Vierge Marie. Mis en sommeil dans les années 60, son procès en béatification a été relancé par l'actuel archevêque de Reims.
Alors, Père de Borgard, cette doctrine sociale de l'Église, incarnée notamment par ce patron chrétien, Léon Armel, est-ce que c'est une douce utopie ? Peut-être qu'il y a eu quelques réalisations, mais est-ce que finalement, quand on voit effectivement le texte lu de Léon Armel sur le fait qu'on ne pouvait pas investir dans des activités illicites du point de vue de l'Église, ça veut dire qu'aujourd'hui, on aurait les mains pures, mais pas de mains. Enfin, comment vous voyez ça ?
Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que la doctrine sociale de l'Église relève purement d'une utopie, ce qui est vrai, c'est qu'elle est souvent difficilement applicable. Elle est surtout souvent assez mal connue. Je pense que la plupart des fidèles habituels des paroisses n'ont jamais ouvert la moindre encyclique sociale. Ce que je ne leur reproche pas, à la limite, je reprocherais davantage à leur curé de ne pas assez la leur prêcher. Non, je ne pense pas que ce soit si éloigné de la réalité que cela. Peut-être que là aussi on en attend trop, au sens où parfois on a tendance à ouvrir les encycliques sociales en se disant on va nous fournir un manuel clé en main de la bonne entreprise chrétienne qui va nous dire que vous allez faire ça, ça, ça et ça, et donc vous allez aller au ciel parce que vous aurez été un bon chrétien. Ça vous donne des critères.
Des principes.
Des critères, des principes d'évaluation de vos propres pratiques à la lumière de l'Évangile, à la lumière de l'enseignement de l'Église. Ça vous donne rarement des choses ultra précises et techniques qui d'ailleurs seraient périmées assez vite et qui en plus seraient inapplicables parce que l'enseignement de l'Église, par hypothèse, il s'adresse au monde entier, c'est-à-dire à des situations géographiques très différentes. Et donc ce que l'on dit ne serait pas, qui serait valable, mettons, en France, ne serait pas valable de la même manière en Afrique du Sud ou en Chine. Alors, tandis que si on en demeure, si je puis dire, à des principes pour éclairer les consciences, alors ensuite, il est de notre devoir à chacun, et c'est la noblesse du christianisme que de faire confiance à l'intelligence des fidèles, de ensuite monnayer, si je puis dire, ces grands principes dans le concret des situations locales.
Joseph Touvenel, une réaction. Vous êtes ancien vice-président de la CFTC, je le rappelle. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ces grands patrons chrétiens de la fin du 19e, qu'on qualifiait de paternalistes, finalement, ont quand même mis en place des mesures sociales avant même les lois du même nom votées par la République.
Oui, parce que ce qu'on oublie dans notre histoire, c'est quand même, il y avait des lois sociales avant 1791, la Révolution française et le citoyen Le Chapelier qui était un ultra-libéral. Il a mis en place le libre contrat, c'est-à-dire que il n'y avait plus de protection puisque chacun était libre de contracter avec l'autre. C'est très très bien, sauf que quand quelqu'un peut donner du travail et l'autre a besoin de travailler pour vivre ou faire vivre les siens, mais il y en a un qui peut tout imposer aux autres, c'est ce qui est arrivé. Et les chrétiens ont tout de suite réagi, notamment l'exemple de Léon Armel, qui était très très moderne, puisque les premiers, dans son usine, il a mis en place, tous les 15 jours, il y avait des délégués ouvriers qui discutaient de la bonne marge de l'entreprise, qui discutaient des embauches, qui discutaient des salaires. Ils ne faisaient pas que discuter, ils étaient co-dirigeants. Avec à la fin Léon Armel y tranchait, mais ça c'est très moderne. On y est très très peu en France. Les chrétiens.
Mais on parle beaucoup d'entreprises libérées, par exemple, nouvelles méthodes de management.
Oui, alors,
effectivement. Est-ce qu'on n'oublie pas quand même la notion de péché originel ?
La notion de péché originel est partout, mais si on se focalise sur la notion de péché originel, l'homme est faillible. Oui, il est faillible. Ça ne nous empêche pas d'avancer et d'essayer de faire au mieux. Et c'est ce que font. C'est ce que fait Michelin avec ce salaire, c'est ce que les chrétiens ont apporté. C'est quand même les chrétiens qui ont apporté l'interdiction du travail des enfants qui était revenue, le fait d'avoir des horaires de travail, c'est-à-dire qu'on puisse pas obliger les gens à travailler parce qu'ils avaient signé un papier pendant 12, 15, 16 heures, etc. Le respect du repos dominical qui est essentiel pour l'équilibre de la société. Et là, moi, je veux reprocher au monde chrétien d'avoir laissé tomber ce combat. Pourquoi c'est essentiel? C'est affirmer que dans un monde qui travaille, très bien, on a besoin d'un temps pour la vie familiale, la vie personnelle, la vie sociale et la vie spirituelle. Et ce temps s'appelle le dimanche, le jour du sabbat. Et ça, c'est valable pour l'ensemble du monde. D'ailleurs, c'est assez intéressant de regarder, il y a très très peu de pays qui ne respectent pas le repos dominical, y compris dans des pays de l'islam. Allez au Maroc, essayez de trouver une banque ouverte le dimanche. Vous me direz. Hein,
si vous Véronique Jacquet.
Oui, l'exemple de Léon Harmel est très instructif. Il y avait effectivement cette dimension paternaliste que maintenant les jeunes d'aujourd'hui, me semble-t-il, ne sont pas prêts à accepter. Alors première question, pourquoi? Et deuxièmement, il y avait dans le temps quand même, dans la plupart des métiers, par exemple pour tout ce qui était médical, médecin, une notion de vocation. On se mettait au service des autres à travers son travail, à travers aussi son entreprise. Cela n'existe plus. Pourquoi? Parce que la société est déchristianisée, parce qu'elle est déspiritualisée.
Et parce que...
Joseph Touvenel,
ce qui a été fait pendant des décennies, c'était d'expliquer que le travail, c'était juste une rémunération, et l'entreprise, de toute façon, c'était son but, c'est de faire un maximum d'argent, un minimum de temps, en oubliant que l'entreprise doit être au service aussi du bien commun. Il est normal qu'elle soit rentable et qu'elle fasse des bénéfices dans le secteur privé. Et donc, les salariés, les jeunes, ils ont entendu pendant des années que le but, c'était ça, qu'il n'y en avait pas un autre. Alors, ils ont compris qu'ils étaient leur propre petite entreprise, et donc leur but, c'est de gagner un maximum en faisant un minimum. Tout ça est une question de morale à un moment donné, pour dire non, le but de la société, c'est pas de me gérer individuellement, c'est de participer au bien commun. Mais voilà, chacun et sa petite entreprise, je n'ai rien en fiche du reste, et j'agis de façon tout à fait égoïste. Ça déstructure la société.
Alors, Amaury Leroux de Lens, j'aimerais que vous nous parliez de votre vision chrétienne au travail, parce que, on le disait tout à l'heure, donc vous faites partie d'une association ou d'une un groupe de spiritualité religieuse qui s'appelle l'Opus Dei, qui justement a beaucoup réfléchi, notamment à travers la figure de son saint patron, Escrivá de Balaguer, un Espagnol, sur justement la spiritualité de la vie chrétienne dans la vie ordinaire, on va dire, hein, et donc aussi au travail. Comment est-ce que vous l'appliquez concrètement dans votre travail au jour le jour?
Alors, déjà juste en transition avec ce que vous venez de dire, hein, quelle que soit la société, sortir des grandes recettes pour qu'il faut que ça marche comme ça et pas comme ça, c'est assez dangereux parce que chaque cas est différent et je pense que c'est individuellement chacun qui fait la différence. On parlait de l'entreprise Michelin, c'est parce que le dirigeant a un souci de justice qui va développer ça. Et par rapport à ce que vous me demandez, l'Opus Dei, c'est avant tout, c'est centré autour de la sanctification du travail. C'est comment est-ce que le travail va être sanctifié, va me sanctifier et va m'aider à sanctifier les autres. Sanctifier, c'est rapprocher de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Comment je le vis au quotidien? Bah, c'est en essayant, alors très pratiquement, c'est je fais le même travail que je ferais avant, sauf que j'en donne une dimension spirituelle, c'est-à-dire que je vais essayer de confier une intention ou bien de regarder comment ça va impacter l'autre. Mon patron, mon collègue, mon client, avec charité. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc voilà. Et concrètement, comment on fait ça ou qu'est-ce qu'on vise à sortir comme fruit du travail? Et c'est pas le salaire est nécessaire mais pas suffisant. Je pense que ce qui décrit le mieux la chose aujourd'hui, c'est les vertus. Est-ce que par mon travail, je vais réussir à être honnête, loyal, courageux, prudent vis-à-vis de mon patron, vis-à-vis de mes employés, vis-à-vis de mes collègues, vis-à-vis de mes clients?
Et ça, c'est un combat aujourd'hui dans le système économique actuel.
Ouais, c'est un combat, mais si on a une vision un peu moyen et long terme, ou qu'on peut se le permettre, je pense que c'est un combat qui porte ses fruits, parce que si mon patron voit que dans la durée, je suis fiable, je suis honnête, c'est-à-dire que je ne cache rien. Je sais, avec courage, dire non quand il faut dire non, par prudence ou voilà. Et ben dans le temps, ça va porter ses fruits. Parce que, comme vous le disiez, on est dans la vérité et la vérité ressort toujours. Donc je pense que c'est ça qu'il faut chercher à faire.
C'est vrai, mais comme mon patron est un fonds financier placé dans un paradis fiscal, il ne regarde pas du tout ce que font les personnes. Et ça, c'est un problème, c'est un drame de voir qu'il y a de plus en plus ou de moins en moins le lien qui se distend entre la personne qui travaille et son vrai patron.
Père de Bourgard, une réaction là-dessus?
Oui, j'étais assez intéressé par ce que disait Amaury sur la question de, au fond, le travail comme lieu de sanctification, évidemment, comme lieu d'épanouissement des vertus. Et je le vois un peu en creux à travers les confessions. Alors, évidemment, je ne révèle pas le contenu des confessions, sans quoi je serais excommunié ipso facto. Mais je suis assez frappé de voir que il y a pas mal de confessions de personnes qui travaillent, où le travail n'apparaît absolument pas dans leur confession. Ce qui me paraît un peu surprenant, eu égard au fait qu'ils y passent en général 80% de leur temps, et que probablement, à moins qu'ils soient l'Immaculée Conception, ils y pêchent. Et donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'une prise de conscience chez les chrétiens en particulier, du fait que le lieu du travail est un lieu moral, est un lieu saint, et dans lequel, en effet, on peut grandir en sainteté, ou au contraire, déchoir dans le péché. Donc je crois qu'il y a vraiment un enjeu à tout simplement prendre conscience que mes relations dans mon lieu de travail sont toutes empreintes ou non de l'évangile. Il n'y a pas d'acte neutre en morale chrétienne, mais ça à veut part dire... se gratter la barbe. Mais...
ça veut dire que... quid de la notion de souffrance au travail, qui est aussi une réalité? Est-ce que, justement, là aussi, tout à l'heure, on parlait du péché originel, ça faisait réagir Joseph Touvenel, mais est-ce qu'il y a une notion de rédemption travail?
Je crois que c'est les deux dimensions, au-delà de l'aspect de bénédiction fondamentale qui est du travail, qui est avant même le péché originel, post-péché originel, il y a deux dimensions qui sont celles de la pénibilité, et celle qui vient un peu contrebalancer, qui est de participation à la rédemption. De
fait, ça veut dire quoi concrètement?
C'est-à-dire que tout chacun. Concrètement, toutes les petites corvées, toutes les petites vexations, etc. Alors, il ne s'agit pas de les cultiver en disant « Ah ben c'est très bien, il y a un climat injuste, donc je participe aux souffrances du Christ en sa passion », mais compte tenu du fait qu'il y en a, je peux choisir de les offrir, je peux choisir de, à ma petite mesure, en effet... contribuer au salut du monde, à sauver le monde par les petites
vexations, de souffrances.
Voilà, c'est ça. Il ne s'agit pas nécessairement de les désirer, mais lorsqu'elles se présentent, de les offrir.
Véronique Jacquier.
Est-ce que la crise de sens du travail que nous voyons chez nos contemporains n'est pas liée justement au fait qu'on ne met plus son âme dans le travail? Et ça rejoint ce que vous venez de dire.
Je pense qu'en
effet, d'ailleurs, on se pense plus avec son âme aussi.
On met plus son âme dans son travail. Alors, il faut dire qu'il y a un certain nombre de jobs qui ne s'y prêtent pas beaucoup.
Oui, c'est ça. Il y a aussi la question du sens du travail, de certains travaux.
C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. On a tendance à y investir à la fois trop et pas assez. Soit on le considère purement comme un moyen au service de la vraie vie qui est ailleurs, comme dirait le poète. Ou alors, on se croit investi d'une sorte de mission qui consisterait à faire que le travail est le lieu de l'épanouissement de tout. Et dans les deux cas, on sera frustré. Dans les deux cas, il y a quelque chose d'injuste. Il faut lui demander tout ce qu'on peut lui demander au travail, mais pas au-delà ni en deçà.
Amaury Leroux de Lens, une réaction là-dessus, sur ces épreuves ou cette souffrance au travail?
Oui.
Vous le vivez comme ça?
Oui, je le vis comme ça. Et quand je parlais tout à l'heure de confier son travail pour une intention particulière, c'est aussi ça. C'est exactement ce que vous avez dit. Accepter une pénibilité, un imprévu, quelque chose de frustrant, voilà, une souffrance. L'accepter, je me répète, c'est le vivre aussi avec vertu. C'est de se dire, bon, c'est là. J'ai pas le choix, mais au lieu de râler et de mettre des bâtons dans les roues qui va impacter négativement tout le monde autour de moi, eh ben, c'est là. Donc, je l'accepte, je l'offre. Et puis, je me dis, ben, comment est-ce qu'on dépasse ça? Comment est-ce que moi, j'agis là-dessus pour peut-être simplifier le problème pour mes collègues, pour mes clients, etc., etc., etc.
Il y a la limite de l'acceptation. La limite de l'acceptation, c'est le mauvais exemple. La limite de l'acceptation, c'est par exemple, à l'heure où nous parlons, aujourd'hui, où nous, on a la chance de pas travailler, en ce dimanche, vous avez 40 000 enfants qui sont exploités dans les mines de cobalt au Congo pour produire ce qui va permettre à nos voitures électriques de fonctionner en France. Là, il y a de la souffrance, là, il y a de l'exploitation, là, c'est plus le travail avec le sens du travail.
Nous ne sommes pas des anges.
Et il y a des bornes à mettre, même si à un moment donné, évidemment, dans l'entreprise, il peut y avoir des efforts à faire, ça peut être un peu souffrance, etc. Ça, c'est la patte humaine. Mais il y a des lignes à mettre très claires contre l'exploitation des êtres humains, notamment à l'autre bout du monde, mais aussi dans notre pays. Il y a des cas d'exploitation. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui travaillent sans être rémunérées, par exemple. Alors, ça reste marginal, mais ils viennent voir les syndicats. On est tout à fait étonnés de voir des gens qui ont pu travailler, d'être exploités, parce qu'on leur a dit « oui, ça va venir ». Vous voyez, ça existe encore. Et là, il faut réagir très fermement.
Une dernière question, parce que malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Père de Bourgard, elle est pour vous. Est-ce qu'au ciel, on va continuer à travailler, puisque effectivement, dès le départ, dès la Genèse, donc, l'homme a été fait co-créateur? Est-ce que ça veut dire que finalement, cette notion, cette bonne conception du travail, non, qui ne sera plus marquée par le péché originel, eh bien, au ciel, continuera?
Alors au ciel, on ne travaillera pas au sens propre parce que l'œuvre de la création sera achevée et transfigurée. Donc de ce point de vue-là, il n'y aura plus rien à achever. En revanche, on ne s'ennuiera pas et on aura de l'activité.
C'était le sens de ma question.
On aura de l'activité, ne serait-ce que d'abord dans les relations interpersonnelles, dans la contemplation de Dieu. Donc oui, il y aura une forme d'activité, mais qui ne sera plus, encore une fois, pour prolonger l'œuvre créatrice, pour coopérer à l'œuvre créatrice, puisqu'elle sera elle-même déjà en son état de perfection. Donc à moins de supposer que Dieu ne fera pas bien le travail et que la création ne sera pas achevée, normalement on pourra enfin se reposer, mais un repos qui ne sera pas oisif.
Un dernier mot peut-être sur votre université d'été. Donc c'est du 21 au 24 août la Sainte-Baume, donc dans le sud, en Provence.
Exactement, c'est les universités d'été de la Sainte-Baume. On les fait depuis maintenant une quinzaine d'années. À chaque fois, on essaie de réfléchir sur un thème de politique, d'économie ou de société à la lumière de l'Évangile et de la doctrine sociale de l'Église, avec des universitaires, avec des journalistes, avec des dirigeants, avec etc. Et puis tous les gens qui veulent réfléchir ensemble. Et donc là, c'est le thème du travail. Donc là, ça va être extrêmement intéressant parce que cette émission en est le reflet. Il y a un peu de matière à réfléchir et à humaniser et à christianiser tout ce monde du travail.
Et on peut s'inscrire donc sur votre site.
On peut s'inscrire sur le site du couvent de la Sainte-Baume et puis un site même de l'université d'été de la Sainte-Baume. Ça se trouve assez vite. Tapez sur Google université d'été Sainte-Baume. Vous pourrez vous inscrire. Venez nombreux. Et en plus, ça a un gros avantage par rapport à d'autres universités d'été, c'est que comme on est dans un lieu un peu isolé et avec une communauté religieuse, on vit sur place dans un cadre magnifique, on prie ensemble, on rencontre les personnes, ce que ne permettent pas la plupart des universités d'été où c'est dans des lieux où on va aller dîner avec quelqu'un d'autre ailleurs.
Merci à tous d'avoir éclairé cette notion du travail très actuelle. Véronique Jacquier, juste en deux secondes, le sommaire de France Catholique de cette semaine, de l'hebdomadaire France Catholique.
Il est consacré au travail bien fait, vous allez voir la une qui s'affiche, France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr.
Merci beaucoup aussi à Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews, à vous d'avoir écouté cette émission. La semaine prochaine, nous parlerons des chrétiens d'Orient à l'occasion de la journée de prière pour les chrétiens d'Orient. Très bonne suite et on se retrouve la semaine prochaine.
Enquête d'esprit, 13h-14h, CNews Europe 1.
Merci Émeric Pourbet et rendez-vous dimanche prochain pour Enquête d'esprit sur Europe 1 en partenariat avec CNews. C'est l'heure du Saint du jour avec Alessandra Martinez sur Europe 1.
Chers amis, bonjour. Je vous emmène au bout du monde, en Océanie, pour vous parler d'un homme admirable, Saint-Pierre-Marie Chanel. Avant de franchir les océans, quelques mots sur ses origines. Il est né en 1803 dans une ferme de la Bresse, dans le département de l'Ain. Tout jeune, il lit avec passion les aventures des missionnaires partis dans le monde pour répandre l'Évangile. Sa décision est prise, il veut faire comme eux. Il entre au séminaire, puis rejoint les pères maristes. Il reçoit enfin l'ordre de partir en Océanie en 1836. Son bateau largue donc les amarres et quitte le Havre pour un voyage de 10 mois qui va le conduire à Futuna en Polynésie, où Pierre-Marie Chanel et ses compagnons sont plutôt bien accueillis par ses habitants. Mais comme ils baptisent à tour de bras, ils finissent par indisposer le roi qui multiplie les brimades et les affames, à tel point que les missionnaires sont contraints de manger leurs propres chiens. Finalement, en 1841, des assassins entrent dans la paillote du père Chanel et le tuent. Ce meurtre n'aura pas l'effet espéré, puisque quelques mois plus tard, toute la population de Futuna est convertie. Et voici pour finir un extrait d'une prière composée par Pierre-Marie Chanel. Que par vous, ô Marie, le nom du Sauveur des hommes soit connu et adoré par toute la terre. C'est tout pour aujourd'hui. Ciao.
Merci beaucoup Alessandra Martinez et à dimanche prochain sur Europe 1. Tous les week-ends, on parle de sport avec Jacques Vendroux et son Europe 1 Sport, le studio des légendes, de 20h à 21h. Et aujourd'hui, son invité sera l'alpiniste Sophie Lavaux, première française à avoir gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Europe 1 Sport, le studio des légendes, c'est tous les samedis et dimanches, 20h-21h, sur Europe 1. Votre dimanche après-midi se poursuit dans un instant avec le journal de 14h et en compagnie de Christophe Ondelat pour Ondelat raconte. Bel après-midi sur Europe 1.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1 au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Gérard Larcher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence. C'est le son qui a marqué l'actualité cette nuit. Au moins 3 explosions comme celle-ci entendues dans le centre de l'Iran.
La question de l'autorité est posée depuis si longtemps qu'il est largement temps de passer des intentions aux actes.
Les faits, c'est quoi? C'est une jeune fille qui ment, qui dit qu'elle a été agressée, qu'elle a été violentée par un enseignant, donc clairement qui lui met une cible dans le dos.
La violence, la faute à qui? Aux parents, oui, débordés ou qui laissent faire.
2 387 000 à écouter Europe 1 tous les jours. Merci, encore merci de votre fidélité. À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-er réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps, à découvrir dès maintenant au musée Guimet, avec Europe 1.
Depuis 20 ans, l'association Don Solidaire remporte